Bonjour à tous. Quelle joie de nous retrouver pour notre temps de culte ce matin. Et je vais vous apporter le message que Dieu a laissé sur mon cœur. Mais vous allez avoir une impression comme si vous regardiez la même émission une deuxième fois. Vous allez découvrir ça au fur et à mesure. Mais Dieu a déjà tout dit, puisque c'est un seul et même esprit qui parle à l'Église aujourd'hui, l'Esprit de Dieu. Et qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Mais parfois, ce ensemble peut devenir chacun de son côté. La communion est brisée et la division prend place. Ce matin, nous allons parler de division. À l'origine, les êtres humains, nous tous, nous étions unis à Dieu. Mais le péché, c'est-à-dire la désobéissance à Dieu, est entré dans le monde à cause de la désobéissance de Adam et de Ève, nos ancêtres. Et à cause de cela, nous avons été séparés de Dieu. Depuis ce jour, Dieu recherche la réconciliation avec nous. Amen. Depuis ce jour, Dieu désire que nous puissions être à nouveau unis avec lui. Alors, Dieu a mis en place un plan de sauvetage. Pas pour quelques-uns, mais pour chacun et chacune d'entre nous qui avons été emportés par la tempête du péché. Et ce plan de sauvetage, il nous est présenté tout au long de la Bible. Pour nous montrer à quel point Dieu veut retrouver cette union avec nous, il nous a même laissé une image particulière, celle d'un époux qui vient donner sa propre vie pour sauver son épouse. Et nous sommes tous ensemble cette épouse. Mais les êtres humains ont quand même continué à se détourner de Dieu. Même le peuple hébreu que Dieu a pris sous son aile s'est détourné de lui. Dans sa désobéissance, ce peuple s'est lui-même divisé. Et ils ont arrêté de trouver qu'il est bon de demeurer ensemble. D'un seul royaume uni, ils sont devenus deux royaumes divisés. Au nord, Israël et au sud, Juda. Et le royaume d'Israël s'est tellement éloigné de Dieu que lorsqu'une nouvelle capitale a été fondée, elle a été appelée Samarie. Et Samarie, ça signifie montagne de guet. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Ouais, ça c'est un des sens. C'est le sens le plus évident, c'est vrai, le côté d'être à l'affût, le côté de la surveillance. C'est celui qu'on connaît naturellement. Et c'est vrai que traditionnellement, quand on place une ville sur une colline ou une montagne, c'est pour pouvoir surveiller plus facilement l'arrivée éventuelle d'ennemis. Mais il y a un deuxième sens à ce mot, guet. Et ce deuxième sens, il est plus profond, plus symbolique. Car le guet, c'est comme ça que l'on appelle l'acte de divorce chez les Juifs. Est-ce que vous le saviez ? En fait, c'est cette lettre écrite par le mari qu'il donne à sa femme pour mettre un terme à leur mariage, pour mettre un terme à leur alliance. Et Israël, en construisant Samarie, a en quelque sorte choisi de divorcer avec Dieu, de mettre un terme à leur alliance avec Dieu. Et pour le remplacer, ils ont adoré les idoles. Le prophète Jérémie dira notamment ceci dans Jérémie chapitre 3 et verset 8. « Alors même que j'ai renvoyé l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai constaté que sa sœur Juda, la traîtresse, n'en éprouvait aucune peur, et qu'elle est allée se prostituer de la même manière. Le résultat, c'est qu'Israël a souillé le pays par la légèreté de sa prostitution. Elle a commis l'adultère avec la pierre et le bois. » Lorsque Jérémie dit ça, en fait, le royaume d'Israël n'existe déjà plus. Car les Hébreux ont été déportés par les Assyriens. Et de nouvelles populations ont pris leur place. Et malheureusement, le royaume du Sud prend le même chemin. Il va leur arriver la même chose. Par la suite, ce sont les Babyloniens qui vont les déporter. Et l'adultère dont il est question, l'adultère avec la pierre et le bois, nous parle des idoles qui ont remplacé Dieu dans le cœur de tout le peuple, au nord comme au sud. Et les peuples qui s'installent désormais, les fameux Samaritains qui viennent dans le royaume d'Israël, ils ne connaissent pas Dieu. Et on peut lire dans 2 Rois au chapitre 17 et verset 28 qu'un des prêtres qui avait été exilé de Samarie vint s'installer à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Cependant, ces nations fabriquèrent chacune leur dieu dans les villes qu'elles habitaient, et elles les placèrent dans les centres de hauts lieux construits par les Samaritains. Ces nations craignaient l'Éternel tout en servant leurs idoles. Et leurs enfants et petits-enfants agissent jusqu'à aujourd'hui exactement comme leurs ancêtres. Mais Dieu, qui est tellement patient avec nous, tellement patient, continue de vouloir cette réconciliation avec le peuple hébreu, mais avec chaque être humain, avec chacun d'entre nous. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. Jésus est venu à notre rencontre. Il est même allé jusqu'en Samarie, le lieu où le divorce avec Dieu avait été prononcé. On est dans les évangiles, l'évangile de Jean, chapitre 4 et verset 5. Jésus arriva dans une ville de Samarie, appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Sichar, ça signifie ivresse, c'est-à-dire un état où le discernement est modifié, un état où on ne reconnaît plus ce qui est bien et ce qui est mal. Pourtant, même là, même dans cet endroit-là, Jésus a accepté de venir. Et alors que c'est l'heure la plus chaude de la journée, Jésus fait une rencontre particulière. On est au verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » La femme samaritaine lui dit, « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire ? À moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Alors, en principe, lorsque les femmes viennent puiser de l'eau, elles ne le font pas du tout à midi. Normalement, elles le font plutôt le matin ou le soir, aux heures les plus fraîches. C'est donc étonnant que cette situation se produise. Et l'auteur de l'évangile de Jean nous précise un point de contexte très important. Les Juifs et les Samaritains n'ont pas de relation. C'est dit très sobrement. En vrai, il y a énormément d'animosité entre les deux peuples, le peuple hébreu et les Samaritains. Et ça dure depuis des siècles. Et que Jésus soit là, ben c'est déjà une surprise. Mais qu'en plus, il demande à boire à cette femme samaritaine, c'est encore plus inattendu. Mais la surprise, elle ne s'arrête pas là. On continue au verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. » D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux ? La Samaritaine, elle pense que Jésus parle d'une eau qui ressemble à celle qu'elle vient puiser elle-même au puits. Mais, vous l'avez compris, Jésus ne parle pas de cette eau-là. Jésus parle d'une eau tout à fait différente. Une eau que lui seul peut donner. Alors Jésus lui répondit, verset 13, « Toute personne qui boit de cette eau-ci, celle du puits, aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est de cette eau que le prophète Ésaïe parle. Dans Ésaïe au chapitre 12 et verset 3, il le prophétise. « Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut. » Et la Samaritaine, est-ce qu'elle reste insensible à ça? Non, elle n'est pas insensible à cette proposition de Jésus, puisqu'elle répond « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. » Si cette femme venait là à une heure où elle n'aurait pas dû, c'est parce que c'était une femme brisée. Et à ce moment-là de l'histoire, on s'attend à ce que Jésus lui donne alors de l'eau, ou bien qu'il fasse une démonstration particulière, un miracle. Mais Jésus avait un meilleur plan. Il demande une nouvelle chose à cette femme. « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » C'est inattendu comme demande. La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, « Je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » En fait, cette Samaritaine, elle symbolise d'une certaine manière ce qu'est la Samarie. Elle était l'épouse de Dieu, mais elle a divorcé avec lui. Samarie a brisé l'alliance qu'elle avait avec Dieu, tout comme cette femme a brisé l'alliance qu'elle avait avec son mari. Et Samarie s'est détournée de plus en plus vers les idoles, comme cette femme s'est détournée, elle aussi, vers de nouveaux amants. Jésus connaissait, avant même cette rencontre, la condition de cette femme. Pourtant, il est venu à sa rencontre. Et elle n'a pas choisi de cacher à Dieu sa situation. Elle qui vivait si loin de Dieu, elle qui venait boire à une eau qui ne pouvait étancher sa soif. Mais à ce moment-là, elle a accepté de changer de cap. Elle a accepté de venir boire de l'eau vive de Jésus. Cette eau qui vient des sources du salut, cette eau qui donne la vie. Elle était séparée de Dieu, mais ce jour-là, elle s'est réconciliée avec Dieu. Amen. Jésus lui a alors présenté cette nouvelle alliance dans laquelle elle est entrée. On arrive au verset 23. L'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. » Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, et c'est la première fois qu'il le dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Cette proposition de réconciliation qui permet d'entrer dans cette nouvelle alliance avec Dieu, Jésus ne l'a pas fait uniquement à cette femme samaritaine. Il nous fait cette proposition à nous aussi. Encore aujourd'hui, quelle que soit la distance à laquelle nous nous sommes éloignés de Dieu, quelle que soit l'obscurité dans laquelle nous nous trouvons, quelles que soient les épreuves que nous traversons, quel que soit ce que nous avons dit ou fait ou même pensé, Dieu est là et il nous fait cette proposition. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône, c'est-à-dire Jésus lui-même, prendra soin d'eux, chacun d'entre nous, et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Je vais reprendre un verset qui a été cité tout à l'heure, mais il est tellement réel, tellement concret. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais aient la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen, amen. Et c'est ce que fait Jésus à la croix. Il accepte de prendre notre péché, notre désobéissance sur lui. Il a accompli ce qu'Ésaïe avait annoncé dans Ésaïe chapitre 53 verset 12. Il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté parmi les criminels. Il a porté le péché de beaucoup d'hommes et il est intervenu en faveur des coupables. Les coupables en question, c'est nous tous. Coupables devant la loi de Dieu, cette loi de Dieu qui met en évidence que tous les êtres humains sont des pécheurs. Seul Jésus n'a pas péché. Et c'est pour cela, c'est pour ça que son sacrifice a tant de valeur. Il était innocent et il est mort à notre place. Face au sacrifice que Jésus a accepté de faire pour nous, nous avons un choix à faire. Il y a un homme qui l'a bien compris. Un homme dont on ne connaît pas le nom. Tout ce que l'on sait de lui, c'est que c'est un criminel, un malfaiteur. Il s'est retrouvé tout à côté de Jésus. La mise à mort de Jésus par la crucifixion, c'est une mort lente, cruelle. C'est une mort qui est réservée à ceux qui ont fait les pires choses. Mais Jésus, qui était innocent, a subi cette mort-là. Et deux autres hommes qui étaient là pour subir la même peine ont été crucifiés en même temps que lui. Et l'attitude de ces deux hommes illustre le choix que nous avons à faire ce matin. Voici ce que nous pouvons lire dans l'évangile de Luc. On est dans Luc au chapitre 23, verset 32. On conduisait aussi deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui, avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi !» Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu ? Toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Alors nous avons ce choix à faire. On peut se comporter comme le premier malfaiteur et se dire que la Bible, le plan de salut de Dieu, le plan de sauvetage de Dieu, tout ça, c'est que des fables. Que si Dieu existait vraiment, le monde serait différent. Mais on peut aussi choisir de nous comporter comme ce deuxième malfaiteur, comme la Samaritaine avant lui, et reconnaître que nous nous sommes détournés de Dieu, pris dans la tempête du péché. Et c'est alors, une fois qu'on a pu reconnaître cela, que nous pouvons placer notre confiance dans le plan de sauvetage de Dieu. Car oui, nous sommes condamnés à cause du péché, parce que cette tempête nous conduit à la mort. Mais par le sacrifice de Jésus, nous échappons à la mort et nous accédons à la vie. Et pas n'importe quelle vie, C'est la vie éternelle que Dieu nous offre. Amen. Jésus ne répond pas au premier malfaiteur. Parce que Jésus ne s'impose à personne. Mais Jésus répond au deuxième. Celui qui a choisi de placer sa foi en lui en disant « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » On ne peut pas rester neutre. C'est impossible de rester neutre. Alors quel choix allons-nous faire ? Face à ce choix, je m'associe vraiment à ces mots de l'apôtre Paul. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dieu désire tellement que nous soyons réconciliés avec lui, tellement. L'apôtre Paul nous dit aussi dans Romains au chapitre 8, verset 34, Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Amen. Intercéder, ça veut dire que Jésus intervient auprès de Dieu le Père dans notre intérêt, à nous, pour que nous entrions dans la vie éternelle avec lui, pour que nous entrions dans cette nouvelle alliance avec Dieu. Et durant toute notre marche, nous continuons de recevoir tout l'amour de Jésus pour nous. Ces versets ont déjà été cités, encore une fois. Dieu avait déjà glissé quelques indices. Dans Romains chapitre 8, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Quel amour ! Quel amour ! Et c'est à nous que Dieu offre tout cet amour. Cet amour, on le retrouve aussi dans le livre du prophète Osée, où ce symbole du couple, du mariage, pour parler de la relation entre Dieu et nous, est mis très en avant. On y retrouve ce message de réconciliation à l'initiative de Dieu, cette volonté que Dieu a de conclure une nouvelle alliance avec nous. Ce texte, vous allez le voir, résume assez bien tout ce qu'on a vu jusque-là, de façon imagée. C'était comme une évidence. Osée chapitre 2, verset 15. J'interviendrai contre elle à cause des jours où elle faisait brûler de l'encens en l'honneur des Baals, c'est-à-dire des idoles. Où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, où elle suivait ses amants, tandis que moi, elle m'oubliait, déclare l'Éternel. C'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et je ferai de la vallée d'Accor. La vallée d'Accor, on peut aussi traduire par la vallée de l'affliction, la vallée du tourment. Je ferai de la vallée d'Accor une porte d'espérance. Quel revirement de situation ! Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte, le jour où elle a été libérée. Ce jour-là, déclare l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. J'enlèverai de sa bouche les noms des Baals, les noms des idoles, si bien qu'on ne se souviendra même plus de leurs noms. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice, par la droiture, la bonté et la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité. Et tu connaîtras l'Éternel. Cette réconciliation avec Dieu, ce n'est pas une réconciliation silencieuse. Non. Ce n'est pas une réconciliation qu'on garde que pour soi. Non. C'est une réconciliation qui devient visible aux yeux de tous, comme quand un arbre commence à porter du fruit. Ses fruits sont visibles de tous. C'est ce que vit la femme samaritaine. On revient dans Jean chapitre 4, verset 28. Et je conclurai sur ces mots. Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. J'en reviens à cette question. Cette fameuse question. Quel choix allons-nous faire ce matin ? Refuser le plan de sauvetage de Dieu ? Ou bien accepter ce plan d'amour de Dieu pour que nous soyons réconciliés avec lui, pour nous sauver ? Amen ? Alors, ce matin, je voudrais lancer un appel. Un appel à tous ceux qui sont dans l'obscurité, qui sont comme cette Samaritaine, comme ce brigand sur la croix, qui veulent reconnaître aujourd'hui cette situation dans laquelle ils sont et qui veulent se tourner désormais vers le Seigneur, qui veulent désormais entrer dans ce plan de sauvetage, dans cette réconciliation, qu'ils puissent venir boire de cette eau vive que Christ donne à tous ceux qui le désirent. Christ le donne gratuitement. Il y a cet appel à te lever. Si tu es cette personne, lève-toi là où tu es. Lève-toi, personne ne te regarde, c'est entre toi et Dieu que ça se passe. C'est le moment. C'est le moment où Dieu te parle depuis le début de cette réunion, à travers la louange, à travers les temps de prière, à travers les dons de l'Esprit, à travers ce message. Dieu recherche la réconciliation avec toi. C'est le moment de saisir cette réconciliation. Il y a aussi un appel pour tous ceux qui ont déjà été réconciliés une première fois avec Dieu, mais qui ont laissé le temps manger petit à petit cette alliance. Dieu est toujours là. Il est toujours là, il t'attend. Oui, c'est vrai, il y a eu de l'éloignement, mais quel que soit cet éloignement, Dieu est toujours là. Dieu s'attend à toi. Dieu veut continuer de garder cette réconciliation. Il veut toujours te donner de l'eau de vie, cette eau de la vie qui t'amène dans la vie éternelle. Lève-toi à ta place également. Lève-toi à ta place. C'est entre toi et Dieu. Et toute l'Église, maintenant, peut se lever d'un seul corps. Nous qui formons tous ensemble l'épouse de Christ. Nous qui formons tous ensemble un seul corps. Ensemble, nous intercédons. Nous prions pour toutes ces âmes, pour chacun d'entre ces personnes qui ont été appelées par Christ aujourd'hui à la réconciliation. Nous sommes tous concernés. Oh Seigneur Jésus, oui, merci pour ta réconciliation. Merci mon Dieu pour qui tu es. Merci mon Dieu parce que oui, tu te manifestes dans les vies. C'est toi qui viens parler au cœur. C'est toi qui viens transformer. C'est toi qui viens nous abreuver de cette eau qui coule jusque dans la vie éternelle, cette eau qui abreuve, qui étanche notre soif. Merci pour ton amour. Merci pour cette alliance que tu places devant nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur pour ton plan de sauvetage. Seigneur, oui, manifeste-toi dans les vies, Seigneur, et que tous ceux qui le vivent, Seigneur, puissent manifester de ton fruit, comme cet arbre qui porte du fruit en abondance, qui devient visible aux yeux de tous. Seigneur, oui, que les témoignages puissent être donnés, que les voix puissent s'élever, Seigneur, pour proclamer ta victoire, pour proclamer ta délivrance, pour proclamer ta réconciliation, Seigneur éternel. Oui, merci pour tout, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur éternel. Amen, amen.